les 5h en temps universel, 7h ici à Paris, 8h à Jérusalem.
Clotilde Dumay.
Le journal, bonjour Alban Le Prince.
Bonjour Clotilde, bonjour à tous.
À la une, pas question de reculer, Donald Trump persiste et signe.
Le président américain qui refuse de faire une pause dans ses droits de douane à la veille de leur entrée en vigueur. L'Union européenne, elle, prépare sa riposte. Dans un instant, nous serons en direct de Bruxelles avec le correspondant de RFI. Au Proche-Orient, le Croissant Rouge évoque une attaque ciblée. Israël annonce l'ouverture d'une enquête. Guerre de communication après la mort le 23 mars dernier de secouristes tués à Rafah, au sud de Gaza. C'est justement à une cinquantaine de kilomètres de là, en Égypte, qu'Emmanuel Macron est attendu. Aujourd'hui, visite symbolique du président français au lendemain d'un sommet consacré à l'enclave palestinienne. Et puis, Boualem Sansal, Sahara occidental, révision des accords de circulation. Deux jours après la visite du chef de la diplomatie française en Algérie pour relancer les relations entre Paris et Alger, les questions les plus sensibles ne semblent pas avoir été évoquées en public. Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, repart bredouille de la Maison-Blanche, premier dirigeant à avoir été reçu par Donald Trump depuis l'annonce de ses droits de douane. Il n'a pas obtenu les concessions espérées car le président américain qui souffle le chaud et le froid ne veut pas reculer.
Virtually every country wants to negotiate.
Pratiquement tous les pays veulent négocier. Si je n'avais pas fait ce que j'ai fait ces dernières semaines, personne ne voudrait négocier. Nous serions allés vers ces pays en demandant s'ils voulaient discuter. Et ils nous auraient dit non. Maintenant, ce sont eux qui viennent vers nous. Maintenant, ils nous proposent des choses que nous n'aurions jamais pensé leur demander. Parce que c'est douloureux pour eux. C'est douloureux parce qu'ils ont profité de nous et que nous ripostons enfin. Les droits de douane vont rendre ce pays très riche. Nous sommes riches de toute façon, mais nous sommes riches d'une certaine façon. Nous avons 36 000 milliards de dollars de dettes. Je veux m'en débarrasser et nous pouvons le faire rapidement avec de bons accords. Les pays ne nous autorisent pas à vendre nos produits alors que nous les autorisons à nous vendre les leurs, ce qui nous coûte énormément d'argent pour avoir le privilège d'aller chez eux. Tout ça, c'est terminé.
Et pendant ce temps, Alban, les bourses mondiales, elles font toujours le yo-yo ce matin.
Moins 4% à l'ouverture en Thaïlande, 5% au Vietnam, 9% à Jakarta, mais aussi plus 1,6% pour Hong Kong et à la veille de l'entrée en vigueur officielle de ces nouvelles taxes de Donald Trump. L'Union européenne, accusée par le président d'avoir été créée pour damer le pion aux États-Unis, prépare sa riposte. Bonjour Pierre Benazet.
Bonjour.
En direct de Bruxelles pour RFI. Les 27 ne comptent pas se laisser faire, hein. Ils se mettent en ordre de marche. Ils ont sorti la calculette, objectif, forcer les États-Unis à venir à la table des négociations.
Effectivement, parce que la Commission européenne a envoyé au capital, aux 27 capitales, hier soir, une liste de produits américains qui seront taxés à hauteur de 25% à leur entrée sur le marché européen. Et cette première volée de droits de douane a toutes les chances d'être adoptée sans encombre lors d'un vote des 27 prévu pour ce mercredi. Des droits de douane de rétorsion, c'est qu'un premier volet parce qu'il s'agit uniquement de la réponse aux droits de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium décrété par Donald Trump. La liste européenne a été établie à partir des droits de douane émis en 2018 lors de la dernière guerre commerciale avec les États-Unis. Il y avait les métaux, il y avait aussi les moto Harley Davidson, les jeans Levi's. Le bourbon, en revanche, il sera exclu pour écarter la menace de 200% de droits de douane punitifs sur les vins et spiritueux européens dont menaçait Donald Trump. Les Européens veulent amener les États-Unis à négocier, mais il leur faudra des arguments de poids puisque, entre autres déclarations cette nuit, il a déjà qualifié d'insuffisante leur proposition hier de supprimer tous les droits de douane sur les biens industriels qui traversent l'Atlantique.
Merci Pierre Benazet depuis Bruxelles pour RFI. Et dans une heure, nous rejoindrons l'envoyé spécial permanente de RFI à Pékin, Cléa Broderst, alors que ce matin, la Chine menaçait de 50% de droits de douane additionnels par Donald Trump pour avoir décidé d'une augmentation de 34% des taxes sur les produits américains. Réplique, elle n'acceptera jamais le chantage de Washington.
Au Proche-Orient, le Hamas annonce la mort d'un journaliste palestinien et 9 blessés dans une frappe israélienne hier sur Ran Younes dans le sud de Gaza.
L'armée israélienne, elle, affirme avoir visé un terroriste du 7 octobre. Par ailleurs, la défense civile palestinienne fait aussi état de 7 morts dans un bombardement à Deir el-Bala dans le centre de l'enclave palestinienne. Parallèlement, après le tollé international provoqué par la découverte il y a plus d'une semaine maintenant des corps de 14 secouristes et humanitaires tués le 23 mars à Rafah, de nombreuses voix s'élèvent pour réclamer l'ouverture d'une enquête indépendante. Promesse faite hier hier par l'armée israélienne, suivie quelques heures plus tard d'une conférence de presse du Croissant Rouge à Ramallah, Mira Sulem.
C'est un affrontement qui se fait par communiqué interposé. Le Croissant Rouge palestinien et l'armée israélienne s'interpellent et se répondent depuis plusieurs jours de façon indirecte. Depuis qu'il a trouvé sur le téléphone d'un des secouristes tués une vidéo documentant les dernières minutes de vie de ses équipes médicales, le Croissant Rouge palestinien entend mettre Israël face à ses contradictions et sa responsabilité. Très largement relayée dans les médias internationaux et les réseaux sociaux, cette vidéo montre des ambulances palestiniennes avançant à allure régulière et feux allumés sur des routes de Gaza. De quoi fragiliser la défense de l'armée israélienne, qui avait dit avoir tiré après avoir aperçu des mouvements suspects des véhicules évoluant, tout feux éteint. Lors d'une nouvelle conférence de presse, hier, lundi, à Ramallah, le Croissant Rouge a donné à voir aux journalistes une version plus longue de la vidéo. L'organisation palestinienne soutient que les humanitaires ont été visés principalement dans le haut du corps, preuve qu'il y avait volonté de tuer selon elle. Aussitôt, par communiqué, Israël a promis une enquête approfondie du dossier. Le New York Times, pendant ce temps, révélait que sur 573 cas présumés de crimes de guerre commis à Gaza et sur lesquels l'armée israélienne enquêtait, un seul avait débouché sur des poursuites judiciaires. Amira Sulem, Ramallah, RFI.
Et c'est justement à une cinquantaine de kilomètres de Rafah qu'Emmanuel Macron est attendu aujourd'hui. Déplacement symbolique pour le président français attendu à Al-Arish, avant-poste égyptien du soutien humanitaire à Gaza. Il sera accompagné de son homologue égyptien au lendemain d'un sommet tripartite sur l'enclave palestinienne auquel le roi de Jordanie a également participé. Les explications de l'envoyé spécial de RFI, Valérie Gasse.
À El Arish, Emmanuel Macron veut parler de l'urgence humanitaire dans laquelle se trouvent les Palestiniens de Gaza, accentuée depuis un mois avec la reprise des frappes israéliennes et l'arrêt des livraisons d'aide. Emmanuel Macron espère marquer les esprits puisque c'est, selon l'Élysée, la première fois qu'un chef d'État occidental se rend dans cette ville, d'autant qu'il sera accompagné d'Abdel Fattah al-Sissi, une manière de marquer aussi la coopération entre les deux pays. Emmanuel Macron s'en est réjoui.
Merci de nous accueillir demain à El Arish et je suis très heureux d'être à vos côtés dans cette aventure. En poste du soutien humanitaire aux populations civiles gazaouis.
La nécessité d'un rétablissement immédiat de l'acheminement de l'aide humanitaire, c'est un des sujets abordés au cours d'un entretien téléphonique avec Donald Trump organisé par Emmanuel Macron lundi après le sommet trilatéral en présence du roi de Jordanie, comme la question des moyens de sécuriser un cessez-le-feu, de rétablir la sécurité et mettre en œuvre la solution à deux États. Emmanuel Macron veut poser des jalons.
Seule la réponse politique permettra d'assurer la stabilité et la sécurité à Gaza et dans toute la région. Et c'est en ce sens que nous allons œuvrer, c'est-à-dire dans la perspective de la conférence internationale pour les deux États, que la France coprésidera dans quelques mois avec l'Arabie Saoudite.
Un volontarisme qui se heurte à la réalité du terrain et l'opposition de l'État hébreu. Valérie Gasse, Le Caire, RFI.
Deux jours après la visite du chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot à Alger, de nombreuses questions, Alban, restent pour l'instant sans réponse.
Le ministre français des Affaires étrangères qui a annoncé, après plus de 8 mois de tensions diplomatiques, la reprise de l'ensemble des mécanismes de coopération entre Paris et Alger. Plusieurs réunions sont d'ailleurs prévues dans les dossiers migratoires, sécuritaires, économiques ou encore judiciaires. Mais les sujets les plus sensibles, eux, n'ont pas été évoqués en public, Lisa Fabian.
Le président algérien a parlé d'un lever de rideau durant son entretien de plus de 2h30 avec le ministre français des Affaires étrangères, mais la discrétion est toujours de mise sur certains sujets. Le plus sensible, le Sahara occidental et la position d'Emmanuel Macron favorable au plan d'autonomie marocain. Un sujet central, mais sur lequel Jean-Noël Barrot n'a rien dit publiquement. Les Algériens ont annoncé leur intention de s'exprimer sur la question lors de la prochaine réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, actuellement présidée par la France. De la même manière, la question de la révision des accords encadrant la circulation des ressortissants algériens en France n'est plus abordée frontalement. Le ministre a estimé qu'il s'agit avant tout d'appliquer les traités existants de manière plus efficace. Côté français, on admet que le retour à des relations plus apaisées avec l'Algérie va prendre du temps, tout en restant persuadé que les échanges de dimanche constituaient une étape nécessaire pour relancer la relation.
Lisa Fabian.
À 5h09, temps universel. Sans surprise, les températures mondiales sont restées proches des records au mois de mars. deuxième mois le plus chaud selon l'Observatoire européen Copernicus ce matin.
Oui, depuis juillet 2023, tous les mois, à une exception près, ont été au moins 1,5 degré plus chaud que la moyenne de l'ère pré-industrielle. Nouvelle illustration, s'il en fallait une, du changement climatique. C'est dans ce contexte que pour la première fois dans l'Union européenne, 11 particuliers victimes d'inondations, de canicules, de difficultés d'accès à l'eau potable annoncent leur intention d'attaquer aujourd'hui l'État français pour manquement à son devoir d'adaptation au dérèglement climatique. Pour mettre en lumière leur action, ils sont rejoints par Greenpeace, Oxfam et le mouvement Notre Affaire à Tous. Jean-Raoul Plossu-Monteil, épileptique, fait partie des plaignants.
La première adaptation a été un déménagement. J'habitais en centre-ville à Grenoble, avec des températures qui montaient à 35 degrés en journée et qui ne descendaient pas en dessous de 28 degrés la nuit. J'ai déménagé dans un village au pied d'une colline pour avoir plus de fraîcheur. Et j'ai la chance d'avoir un employeur qui m'a accordé le droit au télétravail, notamment sur les périodes de canicule. Il faut savoir que la communauté épileptique en France, c'est pas moins de 600 000 personnes. Et pour ces 600 000 personnes, le réchauffement climatique a un impact largement plus fort que pour la population dans son ensemble. Parce qu'en fait, le sommeil a une grande importance pour faire face à l'épilepsie. Or, on voit que les moments de canicule altèrent largement le sommeil. Et donc, on se retrouve avec des crises en avalanche, beaucoup plus difficiles à maîtriser. La population épileptique se sent aujourd'hui un peu délaissée par l'État, avec des plans d'adaptation au changement climatique qui sont largement insuffisants pour la protéger.
Jean-Raoul Plossu-Monteil au micro RFI de Pauline Berger.
Et puis on termine ce journal, Alban, avec une découverte musicale, un petit nouveau sur la scène R&B néo-soul.
Oscar Hemsch, la nouvelle voix du R&B francophone, auteur, compositeur et interprète, il sort son premier album, Ma Voix, Hugo Casaligno.
Faut que je me donne les moyens, je veux pas finir.
Originaire de Toulouse, Oscar Hemsch décide de tenter sa chance à Paris après des études de musicologie, notamment au conservatoire de jazz. Il compose et écrit pour d'autres artistes comme la chanteuse Enchantée Julia ou les rappeurs Luigi et Prince Wally. Puis il construit sa propre identité musicale et se lance dans une carrière solo. Et après deux EP en 2020 et en 2022, Oscar Hemsch sort ce printemps son premier album Ma Voix. Dans ce projet, sa guitare est omniprésente, mais c'est surtout sa voix qui fait office de fil conducteur. Elle peut être assurée et intense, comme fragile et intime, avec des textes et des histoires singulières qui nous ramènent à l'enfance et à l'amour, l'amour de soi et des autres. Il sera à la Maroquinerie ici à Paris ce vendredi 11 avril. En attendant, vous retrouvez Oscar Hemsch et son titre Les Moyens dans la playlist RFI, une playlist que vous retrouvez comme toujours sur RFI.fr et sur toutes les plateformes musicales.
Dis-moi ce que tu as sur le cœur, ne laisse pas tout à l'intérieur, franchis les frontières de tes peurs. Tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde. Tu n'as pas besoin de plaire. Reste honnête.
Hugo Casaligno pour la sortie du premier album d'Oscar Hemsch, Ma Voix, Oscar Hemsch, qui est aussi le choix musical de RFI ce matin. Rendez-vous 9h50, heure de Paris, 7h50, en temps universel.
Et en attendant, c'était le journal d'Alban Le Prince. Merci beaucoup. Pour l'instant, il est 5h13, en temps universel. RFI Matin, on va passer les trois prochaines heures ensemble avec également nos correspondants, nos invités et puis des chroniques pour essayer notamment de mieux comprendre ce qui se passe actuellement sur les marchés financiers depuis plusieurs jours. La bourse perturbée par les droits de douane annoncés par Donald Trump aux États-Unis. Alors faut-il craindre un krach boursier et surtout quels sont les mécanismes pour éviter d'en arriver là? Rendez-vous dans une heure environ avec Aujourd'hui l'économie et Stéphane Geneste. Et puis une toute autre conséquence du retour de Donald Trump à la Maison Blanche, les médias publics américains de l'étranger en difficulté. C'est le cas entre autres de Radio Free Europe.
Nous opérons dans des régions où la liberté de la presse n'est plus autorisée ou bien est fortement restreinte. Grâce à notre travail, nous sommes devenus une bouée de sauvetage pour les membres de notre audience qui sont en quête d'informations fiables et précises sur ce qui se passe dans leur propre pays et dans le monde.
Un reportage à écouter aux alentours de 7h15, temps universel. Le retour de Donald Trump dans un climat mondial déjà très compliqué. Analyse dans une heure du géopolitologue Frédéric Ancel. Invité d'Arnaud Pontus. Dans l'actualité aussi, cette crise diplomatique entre l'Algérie et le Mali. Christophe Boisbouvier interroge dans trois quarts d'heure l'essayiste nigérien Sédic Abba, président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel, pour mieux comprendre ces tensions au moment où Alger reprend les discussions en revanche avec Paris après des mois de crise, des crises observées de près en France par certains Algériens.
La France a une histoire de 200 ans avec un pays arabe qui s'appelle l'Algérie et on ne peut pas la balayer d'un revers de main. C'est pas possible.
Des témoignages à écouter dans quelques minutes. RFI Matin, c'est aussi du sport. Un résumé de la presse africaine et internationale. Bref, merci d'être avec nous et bienvenue si vous nous rejoignez. Mais d'abord, à la une en Asie ce matin, la bourse taïwanaise, dont le rouge hier déjà, elle a enregistré la plus forte baisse de son histoire. Un mouvement de panique de la part des investisseurs taïwanais qui craignent un choc économique après l'annonce par les États-Unis des nouveaux droits de douane. Les tarifs américains prévus pour Taïwan sont particulièrement sévères, hein, plus 32% de taxes. C'est davantage, par exemple, que pour les Coréens et les Japonais. Bonjour Jules Bois.
Bonjour Clotilde Dumais.
Correspondant de RFI à Taïwan, alors comment expliquer cette panique boursière, hein, Jules, sur l'économie taïwanaise ?
Alors l'inquiétude provient surtout de l'incertitude qui règne à Taïwan avec cette grande question en suspens. Quelles conséquences auront les tarifs sur l'économie taïwanaise qui dépend beaucoup des États-Unis ? L'année dernière par exemple, c'est 20% de ses exportations et au moins 40% de ses investissements étrangers qui étaient à destination du sol américain. Conséquence depuis hier, tous les voyants sont au rouge. À la fermeture lundi soir, l'indice boursier taïwanais avait perdu presque 10% de sa valeur. C'est vraiment du jamais vu depuis sa création. Il faut dire que le contexte aussi n'a pas aidé. Les investisseurs avaient eu le temps de voir les bourses américaines ou encore européennes chuter dès vendredi dernier, alors que la bourse taïwanaise était, elle, en vacances. C'était donc le premier jour lundi de l'ouverture de la bourse depuis les annonces tarifaires américaines, ce qui peut aussi aider à comprendre ce mouvement de panique.
Alors pour le moment, les droits de douane ne concernent pas les semi-conducteurs qui sont incontournables pour l'économie taïwanaise. Est-ce que justement les géants du secteur sont épargnés donc par ce mouvement de panique sur les marchés ?
Non, même l'industrie taïwanaise des semi-conducteurs est impactée. Le prix des actions des deux géants que sont TSMC et Foxconn a lui aussi chuté de 10%. Même les actions supplémentaires émises hier par TSMC, qui sont pourtant extrêmement prisées à Taïwan, n'ont pas trouvé d'acheteurs. En fait, même si les semi-conducteurs ne sont pas visés directement par les droits de douane, ce que les investisseurs craignent, c'est une future inflation et une récession pour l'économie américaine et aussi globale, ce qui pourrait impacter directement l'industrie des semi-conducteurs et surtout son développement.
Est-ce qu'il y a des mesures envisagées à Taïwan pour endiguer cette panique boursière ?
Pour le moment, aucune mesure radicale n'a vraiment été prise. En fait, le ministère des Finances taïwanais insiste sur le fait que cette chute boursière est temporaire et qu'un retour à la normale est attendu rapidement. Des mesures financières temporaires ont bien été prises pour réduire la volatilité des actions et des promesses d'investissement pour soutenir les entreprises taïwanaises ont été faites. En fait, l'objectif, c'est de rassurer les investisseurs et d'insister sur le soutien du gouvernement à l'économie. C'est d'ailleurs ce qu'avançait le président de la bourse taïwanaise hier en conférence de presse.
À l'heure actuelle, le gouvernement soutient pleinement l'industrie locale et a entamé des discussions actives avec les États-Unis dans l'objectif de réduire les tarifs douaniers. Le ministère de l'Économie et des Finances va mettre en place les mesures nécessaires pour garantir la stabilité commerciale des entreprises d'import-export.
Surtout, le gouvernement taïwanais croit à une négociation encore possible avec l'administration Trump pour réduire les tarifs douaniers, dans l'espoir d'endiguer l'incertitude économique qui règne à Taïwan.
Jules Bois, correspondant de RFI à Taïwan, où il est 13h18. Et 5h18 en temps universel. Ce retour de Donald Trump à la Maison-Blanche qui déstabilise le monde entier dans un contexte déjà très tendu entre l'invasion russe en Ukraine, l'offensive israélienne dans la bande de Gaza. Tout cela inquiète forcément et pourtant la guerre mondiale n'aura pas lieu. C'est le titre d'un livre de Frédéric Ancel. Bonjour Arnaud Pontus.
Bonjour Clotilde, bonjour à tous.
Le géopolitologue enseignant à Sciences Po Paris sera votre invité dans un peu plus d'une heure.
Oui, nos journaux, nos éditions sont remplis du récit de ces conflits en tout genre et en tout lieu. Le climat géopolitique est inquiétant et anxiogène. Frédéric Ancel en fait le constat, mais il refuse de sombrer dans la posture apocalyptique. Il nous livre 7 raisons d'espérer, 7 réalités objectives, parce que le pire n'est jamais sûr. Et le géopolitologue nous incite à ne pas croire ceux qui annoncent la Troisième Guerre mondiale pour demain, ni ceux qui assurent qu'elle a d'ores et déjà commencé. Ça n'empêche pas d'être lucide sur les dangers, les menaces et le caractère imprévisible de Donald Trump. La guerre mondiale n'aura pas lieu, Frédéric Ancel avec nous tout à l'heure.
Rendez-vous donc vers 6h20 en temps universel. Alors que les liens diplomatiques se tendent entre d'un côté l'Algérie et de l'autre le Niger, le Burkina Faso et surtout le Mali, on va en parler dans nos éditions, eh bien la relation entre Alger et Paris, elle, se réchauffe un petit peu. Le ministre français des Affaires étrangères a en tout cas évoqué à l'issue de sa visite dimanche le début d'une nouvelle phase entre les deux pays après 8 mois de crise. Et même si cette réconciliation semble encore fragile et que l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal notamment est toujours détenu par Alger, ce ne sont de toute façon pas les premières tensions entre ces deux pays depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962. Des tensions récurrentes qui viennent d'abord heurter tous ceux qui ont des liens avec les deux côtés de la Méditerranée, les Algériens de France, les binationaux, les enfants d'Algériens. Reportage de Marie Casadebet à Sartrouville, dans la banlieue ouest de Paris.
Donc sur tous les textes, sans aucune exception, il y a des coupes.
Tous les vendredis soirs, Abdelweb Sefsaf, le directeur du théâtre de Sartrouville, anime un atelier pour comédiens amateurs. Sur 14 participants, les trois quarts ont des liens avec l'Algérie.
Malika, mes parents sont originaires d'Algérie.
Samira, mes parents sont venus quand ils étaient jeunes.
Carole, j'ai un grand-père qui est venu d'Algérie dans les années 40.
Mohamed, je suis venu en France à 8 ans, en 1968.
Ils ont entre 42 et 65 ans. Ces quatre ont accepté de nous raconter comment ils avaient traversé cette énième crise entre Paris et Alger.
Comme une violence inouïe, parce que ça remet en cause la question de la légitimité.
Moi, ça m'a mis très mal à l'aise. Et je crois que ce qui m'a fait le plus mal, c'est quand tu as eu une espèce de négation par rapport aux exactions de la France en Algérie.
Pour nos quatre comédiens amateurs, c'est l'un des plus gros nœuds. La France ne parvient toujours pas à regarder la réalité de son passé en Algérie.
Je crois que la difficulté, elle est là. On n'arrive pas à s'entendre sur l'histoire. Être algérien, pour les gens, ça veut aussi dire être musulman.
On a l'impression d'avoir un double handicap, quoi.
Oui, c'est la double peine, en fait. Tous les musulmans sont attaqués aujourd'hui. Mais l'Algérien, c'est la cible. Certains politiciens se sont dit, voilà, on va toucher l'Algérie. Parce que tous, ils ont des comptes à régler avec les Algériens.
Alors, j'ai l'impression que être français intégré ou assimilé, c'est vraiment renoncer à ses origines. Et pour moi, ça, c'est une hérésie.
Alors rien d'étonnant si le projet théâtral que leur a proposé Abdelweb Sefsaf les inspire. Il s'intitule « Français du futur » et ils l'écrivent ensemble.
Derrière ton destin foulé de rêves victorieux.
Si j'ai eu besoin moi de faire ce travail, c'est parce que quand j'étais enfant, j'étais assez troublé par le fait qu'on me qualifiait non pas de Français de première génération, mais plutôt d'immigré de seconde génération. Comme si mes enfants allaient être des immigrés de troisième génération et ainsi de suite, jusqu'à ne jamais devenir Français.
Mais c'est aussi son histoire qui lui fait dire que Paris et Alger n'ont pas d'autre choix que de se réconcilier.
La France a une histoire de 200 ans avec un pays arabe qui s'appelle l'Algérie, et on ne peut pas la balayer d'un revers de main. C'est pas possible. C'est d'abord nier l'histoire, c'est, je dirais, insulter la mémoire des disparus, mais c'est pire encore, insulter la mémoire des vivants. On tente de réduire l'écartèlement auquel on nous assigne, mais à un moment donné, ça devient intenable.
Pour ne pas se sentir écartelé, la petite troupe a décidé de se servir de son vécu, de ses richesses, pour dresser ensemble le portrait de ce qu'elle entend incarner, le français du futur.
Un reportage de Marie Casadebet à réécouter sur le site internet et l'application Pure Radio de RFI. Allez, on parle d'une bataille du ciel. Bonjour Florent Guignard.
Ah, bonjour.
La justice française vient de condamner un parc éolien responsable de la mort de nombreux oiseaux, dont des espèces menacées. C'est donc la question d'environnement du jour. Florent, oiseau ou éolienne, faut-il choisir?
Je me suis dit, Clotilde, que ça vous ferait sûrement plaisir qu'on entende de nouveau des oiseaux ce matin. Un oiseau en particulier. Bon, je vous l'accorde, Clotilde, c'est pas aussi mélodieux que le rouge-gorge. C'est le faucon cresserellette, un tout petit rapace qui vient de mettre à l'arrêt un grand parc d'éoliennes dans le sud de la France, des éoliennes de l'énergie propre, qui ont officiellement tué 160 oiseaux et chauves-souris, notamment des dizaines de faucons cresserellettes, une espèce menacée en France, à ne pas confondre avec le faucon cresserelle, un peu plus gros. Lui, il se porte bien, j'en vois régulièrement à Paris.
Alors, est-ce que c'est une décision de justice importante?
Eh oui, c'est la première fois que les exploitants d'un parc éolien sont condamnés au pénal avec de lourdes amendes, 2,5 millions d'euros au total, et surtout l'arrêt des 31 éoliennes pendant 4 mois. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour ces faucons, des oiseaux migrateurs. C'est au mois d'avril qu'ils arrivent d'Afrique pour nicher dans le sud de la France jusqu'à la fin de l'été.
Est-ce qu'on peut parler d'éoliennes tueuses d'oiseaux ?
C'est une réalité. La Ligue pour la protection des oiseaux, la LPO, estime dans un rapport qu'une éolienne tue en moyenne 7 oiseaux par an. Sachant qu'il y a plus de 10 000 éoliennes en France, comptez, Clotilde.
Alors, ça doit faire, il est tôt le matin, mais ça doit faire dans les 70 000.
Voilà, c'est ça. Plus de 70 000 oiseaux tués par an. Et les rapaces, comme le faucon, paient un lourd tribut. Ils ont tendance à tourner autour des éoliennes, comme l'explique Geoffroy Marx, l'auteur de ce rapport de la LPO.
Généralement, autour des éoliennes, en fait, on défriche, on va libérer le terrain autour et ça rend par exemple les micro-mammifères qui sont au sol très visibles et c'est extrêmement pratique pour les rapaces qui chassent.
Mais pourquoi est-ce que ces oiseaux, Florent, percutent les éoliennes ?
Les oiseaux, Clotilde, ont plein de qualités, mais ils ont du mal à voir les contrastes, à distinguer les pâles des éoliennes parce qu'elles sont blanches pour se confondre avec le ciel, pour ne pas gâcher la vue des humains. Des chercheurs suggèrent d'en peindre une en noir, mais sans garantie.
Est-ce qu'il y aurait d'autres solutions que des coups de peinture ?
Oui, les éoliennes sont en principe équipées de systèmes de détection des oiseaux, mais là encore, ça ne marche pas très bien, Geoffroy Marx.
Généralement, ça fonctionne avec des caméras qui détectent les oiseaux qui s'approchent. Le logiciel déclenche soit un signal acoustique, soit provoque l'arrêt des machines. Malheureusement, aujourd'hui, ça n'a pas encore fait vraiment la preuve de son efficacité.
Oui, quand les caméras détectent les oiseaux, c'est généralement trop tard.
Alors finalement, est-ce que les éoliennes et les oiseaux peuvent cohabiter ?
Oui, il n'y a pas le choix, on a besoin des deux. Mais cette affaire illustre parfaitement les contradictions qu'il y a parfois entre la protection de la biodiversité et la transition énergétique nécessaire pour lutter contre la crise climatique. Geoffroy Marx du programme Énergie renouvelable et biodiversité de la LPO.
Finalement, c'est un compromis qu'il faut trouver. Il faut aussi de la place pour produire de l'énergie, ça, on en aura tous besoin demain, donc il faut réussir à concilier les deux.
Une dernière illustration, Clotilde, de cette contradiction, Greta Thunberg, la jeune militante du climat qui prend le voilier, vous savez, pour aller en Amérique, elle manifestait, il y a un an et demi, contre des éoliennes illégales en Norvège, construites sur les terres du peuple Sami. Leurs rennes ne peuvent plus aller pâturer à cause des éoliennes, ce sont des cervidés, eux ne sont pas menacés, on finit par les manger.
Florent Guignard pour la question d'environnement. Merci beaucoup. Dans quelques instants sur RFI, le retour de l'actualité africaine, mais d'abord un peu de musique. Sekai, In My Bed, dans la programmation de RFI ce matin.
Hate to see you go, love to see you come. So many options, but I'm the chosen one. Ice on my neck, frozen one. Girl, love me, so you love me. You are very fine, I cannot deny. But is this really love, or is this a lie? Number one, you're my number one champion, girl. I need you in my bed. Waiting God to give you, you got to show off. Make it for no loss, I go be a downfall driver. Drive you crazy, drive you crazy. Girl, I know what you like. Let's not put off the lights, so I can see you clearly. Mwah, baby, give it to me. Oh, you are very fine, I cannot deny. But is this really love, or is this a lie?
In My Bed, Sekai, ce matin sur RFI. Restez avec nous dans un instant, l'actualité africaine.
Priorité. Côté Santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
imagerie médicale, diagnostic, suivi et traitement des maladies.
Demain,
chikungunya, l'île de la Réunion frappée par une épidémie.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité Santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
L'exposition Désert, actuellement à la Grande Galerie de l'Évolution à Paris, invite à un voyage inédit du Sahara à l'Atacama, en passant par l'Antarctique, pour explorer les déserts de la planète et découvrir comment la vie s'adapte dans ces milieux extrêmes. L'exposition Désert à la Grande Galerie de l'Évolution. Plus d'informations sur mnhn.fr. En partenariat avec France Média Monde.